Ce sont deux membres de Lutte Ouvrière, donc, qui sont candidats aux élections régionales, tous les deux, ils m'ont dit. Et alors, il s'agit de Delphine Bridet et Thomas Preux.
Voilà, on est venu pour parler un petit peu de la situation politique et puis des élections à venir qui se passent dans un contexte bien particulier avec cette crise sanitaire, toutes les conséquences qu'elle a eues sur l'ensemble des travailleurs et puis voilà, sur la situation à venir, parce qu'on voit vraiment qu'on a en face de nous un grand patronat, un gouvernement qui porte des coups très durs contre les travailleurs, et nous on pense qu'il ne faut pas se laisser faire, que ce soit dans les entreprises, dans les élections. On pense que les travailleurs, ils ont bien des choses à dire, et on est venu parler un petit peu de tout ça.
Alors justement, quelle est la chose la plus importante pour vous en ce moment, le sujet le plus important?
Pour nous, le sujet le plus important, c'est les conditions de travail, c'est le chômage, c'est les bas salaires, c'est tous les sujets finalement dont tous les grands partis ne vont pas du tout parler dans ces élections, hein, comme d'habitude. Eux, ils vont mettre tous ces sujets-là sous le tapis, et nous on pense que c'est indispensable que les travailleurs ils s'expriment, qu'ils s'expriment aussi avec leur bulletin de vote, dire que nos problèmes à nous, les problèmes des travailleurs, ils doivent pas être occultés, ils doivent pas être cachés par tous ces grands partis bourgeois qui se succèdent au gouvernement et qui vont toujours noyer les problèmes, chercher à nous diviser, nous parler de l'immigration, nous parler
la sécurité,
de leur projet de loi sur la séparatisme, la sécurité et tout ça, et que finalement quand ils font tout ça, ce qu'ils cherchent à faire, c'est noyer le poisson, alors que ce que subissent les travailleurs, ce sont les bas salaires, c'est le chômage, et nous c'est de ça qu'on a envie de parler.
Alors Delphine.
Oui, moi je suis infirmière à l'hôpital de la Croix-Rousse, et l'épidémie, on l'a subie de plein fouet pendant l'année du Covid. De toute façon, les problèmes, ils datent pas d'un an et demi, hein. Ça fait longtemps qu'il y a des suppressions de lits dans les hôpitaux, qu'on n'est pas remplacé quand on est absent, ça fait longtemps qu'on dénonce les conditions de travail, même avant le Covid. Là, ça a été simplement le miroir qui a mis un petit peu en lumière nos conditions de boulot, mais en fait, elles se sont pas améliorées.
C'est sûr.
Là, y a tous les politiciens qui ont mis un petit peu en avant l'hôpital, en nous présentant comme des héros, en faisant tout un tas de beaux discours qui coûtent pas un centime. La réalité du terrain, c'est pas celle-ci. C'est toujours des effectifs en moins, c'est toujours des restructurations de services qui sont synonymes de suppression de postes. C'est du manque de matériel quotidien, ça on l'a toutes vécu, le manque de masques, le manque de moyens de protection pour rentrer dans les chambres, des bâtiments qui se cassent la figure, des inondations. On est en 2021 et il y a encore des plafonds qui nous tombent sur la figure, quoi.
Tout ça parce qu'il faut faire des économies, c'est ça?
Tout à fait, ouais. Tout ça pour faire des économies, y compris, ça c'est sur toute la population, parce que ils nous ont vachement pointé du doigt, en fait, le gouvernement, là, pendant un an et demi, en disant que c'était parce qu'on était trop proches, parce qu'on respectait pas les distanciations, etc. Mais en fait, les responsables des pénuries de vaccins, des pénuries de lits, de personnel, c'est quelque chose qui est organisé déjà depuis des années.
Donc au niveau régional, que peut-on faire? Parce que l'élection est régionale, hein.
Oui, l'élection est régionale, mais enfin, on voit bien que pour tous ceux qui s'y présentent, là, les grands partis, eux, ce qu'ils voient au niveau régional, c'est l'argent qu'ils vont continuer à distribuer aux grandes entreprises, hein, de la même façon que l'État, il distribue de l'argent, des aides aux grands patronats, et il l'a largement fait d'ailleurs pendant cette crise sanitaire. On a vu les plus grandes fortunes de ce pays, ils ont doublé leur fortune pendant la crise sanitaire. C'est aussi ce dont on vient discuter là, c'est que cette crise, elle a vraiment pas eu le même genre de conséquences pour ceux qui dirigent cette économie, les grands patrons, et pour l'ensemble des travailleurs qui font tourner tout ce système. Au niveau régional, les grands partis, eux, ce qu'ils prévoient, c'est continuer à distribuer des aides aux grands patrons, parce que quand même, les régions, ce sont des institutions qui gèrent de gros budgets et qui enrichissent largement les patrons du coin. Et aussi, ce qu'ils ont en tête, c'est qu'ils sont en train de préparer, eux, leur carrière politicienne, de se préparer à l'élection présidentielle à venir, hein. Ils sont tous en train de chercher à se placer, de réfléchir en fonction des résultats qu'ils vont avoir à se placer dans la course à la présidentielle. On a le parti au pouvoir, La République En Marche, qui, eux, ils vont chercher à limiter la casse, préparer au mieux le terrain pour Macron en 2022. Donc, je pense que dans bien des têtes, de toute façon, les enjeux de cette élection, ça dépasse largement les cadres d'une région. Et de la même façon, de notre point de vue à nous, nous, on se place pas sur le terrain de ce grand théâtre électoral, de toute cette mascarade. De toute façon, on sait bien qu'après les élections, quel que soit le résultat, c'est pas ça qui changera le sort des travailleurs. Par contre, on pense que les travailleurs, que ce soit dans la région et dans l'ensemble du pays, ils ont bien des choses à dire, et que de toute façon, les intérêts des travailleurs, qu'on vive dans la région Rhône-Alpes, n'importe où, en Aquitaine, dans le Nord et même dans un autre pays, l'ensemble des travailleurs, on a les mêmes intérêts. C'est que on a bien vu dans cette crise sanitaire que c'est nous qui faisons tout fonctionner, que sans les travailleurs, il n'y a rien qui fonctionnerait dans les hôpitaux, dans les transports, dans les usines, il n'y a absolument rien qui pourrait tourner sans nous. Et par contre, c'est toujours les mêmes qui dirigent, c'est toujours les mêmes qui prennent les décisions. décisions, c'est les grands patrons et c'est eux qui s'enrichissent dans l'histoire. Alors voilà, nous ce qu'on veut dire, c'est que puisqu'on fait tourner toute la société, que ce soit au niveau d'un quartier, d'une usine, d'une région, du pays, du monde entier, bah, ceux qui doivent prendre les décisions, ceux qui sont les plus légitimes à diriger la société, et bah, c'est cette classe sociale, ce sont les ouvriers, ce sont les travailleurs.
Donc j'imagine que la gestion verte n'est pas différente de celle de Gérard Collomb, j'imagine.
Bah, moi je pense surtout que voilà, il manque pas de politiciens qui veulent gérer les affaires du capitalisme, qui veulent aller s'asseoir et diriger, participer en tout cas à cette société quoi. Et nous en fait on n'est pas sur ce terrain-là. Ce qu'on voit c'est que la société elle nous amène dans un mur, que les profits ils explosent. Là rien que sur l'année 2020 il y a eu 39 milliards de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Encore ce matin les taux de la bourse ils ont jamais été aussi élevés, c'était à plus de 6500 points. Et ces industries, c'est l'industrie du luxe, c'est les Hermès, les LVMH, les Bernard Arnault, eux c'est sûr que cette société elle leur convient. Il y a toute une clique politique qui veut participer à tout ça. Nous là-dedans ce qu'on voit c'est que c'est vital que les travailleurs on s'exprime, voilà, qu'on défende nos intérêts, qu'on exprime que nos salaires ils sont pas suffisants pour vivre. Voilà, aujourd'hui on a tous besoin d'un boulot pour s'en sortir. Il y a des millions de chômeurs, la crise elle en a rajouté encore plusieurs centaines de milliers, et nous on veut exprimer qu'il y en a ras-le-bol en fait, qu'il y en a ras-le-bol, que maintenant ça suffit et que c'est vital pour nous de défendre notre camp et nos intérêts.
Juste un mot là sur ces dirigeants écologistes, le dirigeant de la métropole écologiste, un truc qui m'a pas échappé là ces derniers temps, c'est qu'il a fait une déclaration sur l'importance de la bonne santé économique des entreprises, que lui il voulait tout faire pour que les entreprises soient dans la meilleure santé possible et tout ce dont elles disposent dans l'agglomération lyonnaise. D'ailleurs lui-même, passage, c'est un homme d'affaires, le dirigeant de la métropole. Bon, et en fait, c'est pas le même monde. Voilà, nous c'est pas à ce monde-là qu'on veut s'adresser. Ça sera ceux qui voudront changer les choses, c'est pas à ceux qui dirigent l'économie et qui aujourd'hui sont en train d'augmenter considérablement leur fortune en pleine crise sanitaire, qui ont reçu toutes les aides. Enfin, faut quand même se rendre compte, on est dans une société où par exemple le groupe Air France, même quand ses avions ils sont cloués au sol en raison de la crise sanitaire, eh ben ils arrivent quand même à maintenir leurs profits en recevant des centaines de millions d'euros d'aide de l'État. C'est eux qui le dirigent ce système et c'est pas eux qui le font tourner. Donc nous on a aucune illusion dans ce que devraient faire ces dirigeants écolos, parce que au fond, à partir du moment où ils acceptent la propriété privée des entreprises, c'est-à-dire voilà que ces grands groupes ils appartiennent à des actionnaires et que c'est les actionnaires qui ont le dernier mot, à partir de là, quand on accepte ça, eh ben, la seule chose que peuvent faire des dirigeants, eh ben, c'est s'en prendre aux travailleurs. Il n'y a pas le choix parce que la société elle est divisée en deux camps et on n'a pas les mêmes intérêts. Tous ceux qui refusent de s'en prendre à cette propriété privée, de s'en prendre au pouvoir des riches, eh ben, d'une façon ou d'une autre, ils sont amenés à s'en prendre aux travailleurs et les écologistes, ben, voilà, ils peuvent le faire à coup de taxes qu'ils vont faire payer aux gens, comme d'habitude, exactement de la même façon que le gouvernement, dans la crise sanitaire, il dit que c'est la faute des travailleurs quand ils tombent malades, c'est la faute des travailleurs qui respectent pas les gestes barrières et tout ça. Eh bien, les écolos, ils nous disent tout le temps que c'est la faute de la population si l'environnement est détruit par cette société. Ben non, en réalité, l'environnement, il est détruit par une société complètement folle, une société où il n'y a que le profit qui compte et où les grands patrons, ils ont tous les droits, y compris celui de ruiner la planète pour s'enrichir. Eh ben, c'est pas eux qui nous protégeront contre tout ça, parce qu'il faudra changer la société, il faudra changer ceux qui ont le pouvoir, ceux qui décident. Et visiblement, c'est pas du tout les idées, le programme des écologistes.
Alors, ce qui est étonnant, c'est...
On est venu aussi annoncer, effectivement, un meeting.
Et ben du coup, donc, le 16 juin, donc à 19h, au Palais de la Mutualité, donc au métro Guillotière. Donc, il y a Nathalie Arthaud, notre porte-parole nationale, et puis Chantal Gomez aussi, qui sera tête de liste aux régions Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ils sont présents et ce sera l'occasion, bah, justement, de se réunir entre travailleurs qui relèvent la tête, qui ont envie de pas accepter, de pas baisser la tête dans cette société, qui ont envie de croire qu'une autre société est possible, et surtout qui sont en colère, quoi, parce que bah il y en a ras-le-bol en fait de ces bas salaires, il y en a ras-le-bol des beaux discours, et on est communiste, voilà, on a des choses justement à proposer, on a des idées, et on pense qu'une autre société est possible.
Donc c'est le 16, c'est un mercredi, exactement dans deux semaines. Donc, c'est à 19h.
Ça sera au 1 place Jutard, vers le métro Guillotière.
Que vous avez déjà acté la date de la fête de l'Outouvrière l'automne. que vous avez quand elle aura lieu?
Il me semble que la fête de lutte ouvrière régionale aura lieu à la fin du mois de septembre. Il y aura bien la fête de lutte ouvrière qui devrait avoir lieu à Saint-Fond.
Si c'est le dernier week-end, ce sera pour être le 25 et 26 septembre. Voilà. Et la bonne nouvelle, ce sera pas en même temps que la fête de l'humanité. Donc, vous voyez, chers auditeurs, allez aux deux. Voilà. Tant, je suis pas sûr que lutte ouvrière aille à la fête de l'humanité.
Ça
vous arrive?
Des camarades qui se rendent à la fête de
l'humanité. Bien sûr.
C'est un événement important avec voilà.
Plus près du micro.
Pardon. Bah pour nous, voilà, là, c'est vraiment un événement populaire auquel de nombreux ouvriers se rendent. En plus, il nous arrive régulièrement d'être invités par le journal L'Humanité à cette fête, et donc de participer à des débats, de s'adresser aux travailleurs, y compris d'expliquer aux travailleurs nos idées communistes révolutionnaires, en quoi, quelles sont nos différences aussi avec le Parti communiste, pourquoi nous ne pensons pas que la participation au gouvernement, les élections sont un moyen de changer la société, mais que ce sont les travailleurs qui ont réellement la force de changer les choses parce que c'est nous qui sommes indispensables et que c'est nous les mieux placés pour diriger la société. Donc voilà, on est heureux de pouvoir se rendre dès que, à chaque fois que c'est possible, à la fête de l'humanité.
Voilà, donc rendez-vous le mercredi 16 juin à 19h au Palais de la Mutualité. Donc vous pourrez rencontrer Nathalie Arthaud qui sera en compagnie de l'ensemble des candidats.
Oui, et puis de Chantal Gomez, qui est la tête de liste de lutte ouvrière dans cette élection régionale, qui prendra aussi la parole dans le meeting.
Oh, il faut avoir vraiment les reins solides. Hein. On répète toujours la même phrase, on relance. Ça vous décourage pas, les mamans?
Bah non, ça nous décourage pas, parce que, y compris, on n'est pas enclin justement à la démoralisation, parce qu'on a une confiance totale, en fait, dans notre classe. Et là, pendant un an et demi, en fait, les travailleurs, on les a vus à l'œuvre. C'est ceux, on ne pouvait pas compter sur le gouvernement, on ne pouvait pas compter sur les riches, on ne pouvait pas compter sur les actionnaires. Par contre, on a vu, moi j'ai vu au quotidien, dans mon boulot, et ben des gens qui se sont démenés pour faire en sorte justement de pallier au système capitaliste. On a vu des gens venir en aide à l'hôpital. Moi j'ai eu des profs qui sont venus faire le ménage dans mon service. On s'est organisé entre nous. On s'est débrouillé en fait avec les moyens du bord pour essayer de pas succomber justement. Mais cette force-là, nous, on a confiance, une confiance totale, en fait, dans les travailleurs. On voit qu'elles s'expriment au quotidien. Voilà, le message, nous, qu'on essaye de faire passer, c'est justement que tous les travailleurs, ils prennent conscience qu'on fait déjà tout tourner. Voilà, que ce soit... moi, j'ai l'exemple des champs. Enfin, là, le confinement, tout le monde s'est tourné un petit peu vers aussi l'industrie de l'alimentation. Bon, bah, ceux qui produisent la nourriture au quotidien, on a bien vu qu'il y avait tout un tas de travailleurs, y compris beaucoup de travailleurs étrangers. Les ouvriers agricoles, les petits paysans, toute cette catégorie de population, les caissières, les femmes de ménage, les éboueurs, les ouvriers agricoles, sans eux, la société, elle tourne pas. La société, tout repose sur leurs épaules. Aujourd'hui, on leur dit qu'ils sont rien, qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, qu'ils n'ont pas le droit de décider. Nous, on a confiance dans cette classe-là, dans notre capacité à prendre le pouvoir et à décider en fait de comment répondre à nos besoins.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Delphine. Moi, je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles nous, on garde le moral et on pense que voilà, tout est encore possible, c'est parce qu'on n'a jamais été déçus dans les différents passages de la gauche au gouvernement, tout simplement parce qu'on n'a jamais cru une seconde en eux. On n'a jamais imaginé une seule seconde qu'un bon gouvernement de gauche pourrait avoir une meilleure politique. Une bonne partie de la démoralisation de bien des militants de gauche aujourd'hui, c'est parce qu'ils avaient fait confiance en Mitterrand, ils avaient fait confiance en Jospin, en Hollande, et à chaque fois de voir la gauche trahir les espoirs des travailleurs et de ses militants, ça les a démoralisés. Mais en réalité, dans un système capitaliste, quand on voit arriver au pouvoir des dirigeants qui, comme je disais tout à l'heure, veulent pas s'en prendre à la propriété privée des patrons, veulent pas s'en prendre au pouvoir des capitalistes, il n'y a rien d'étonnant à ce que toutes les lois qu'ils font, toutes les mesures qu'ils prennent, c'est toujours des mesures contre les travailleurs. Alors oui, la situation, elle est difficile. Oui, c'est vrai que, par exemple, là, tout l'argent qui a été distribué aux grands patrons, aujourd'hui, ce que prépare le gouvernement, c'est de nous faire payer la note. C'est de nous dire que les centaines de milliards d'euros qu'ils ont sortis des caisses de l'État, ils vont essayer de les faire payer aux travailleurs d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, ils sont déjà en train de s'y préparer. Hein, quand on voit le genre de lois qu'ils font, que ce soit des lois sur le séparatisme pour nous faire croire que nos adversaires, ça serait d'autres travailleurs pour nous diviser la classe ouvrière. Quand ils font des lois sécuritaires, pour se donner de plus en plus d'outils, pour soumettre la population, pour nous faire accepter leurs sales coups. Bah, en fait, l'État, de toute façon, quelle que soit son étiquette politique, il est en train de se préparer à attaquer encore plus durement les travailleurs. Et pourtant, oui, on a le moral. Parce qu'il y a autre chose quand même qu'on a vu dans cette crise sanitaire. C'est que quelque chose qui ne change pas, quel que soit le taux de chômage, quelle que soit la situation, et bah, c'est toujours les travailleurs tout tourné. C'est toujours nous qui sommes indispensables et sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Et bien, ça nous donne une force considérable. Et il y a des travailleurs qui relèvent la tête. En ce moment, il y a une grève à Ikea dans l'agglomération. Il y a les travailleuses des hôtels Ibis qui ont fait des grèves, qui étaient en lutte depuis 2019, depuis deux ans, et qui là viennent de gagner. Donc oui, les travailleurs, ils ont une force. Et surtout, il faut s'imaginer un petit peu la force qu'on aurait tous ensemble. Parce que déjà, quand il y a les travailleurs de la RATP qui sont en grève à Paris, et bah déjà toute la ville elle est paralysée. Mais si on imaginait un instant que c'était pas uniquement les travailleurs de la RATP, mais l'ensemble des travailleurs qui se mettaient en mouvement, faut se rendre compte un petit peu de l'énorme pouvoir que notre classe sociale elle a entre les mains. Donc oui, moi je suis convaincu qu'on peut tout changer. Mais seulement pour ça, il va bien sûr falloir qu'on s'organise, qu'on soit conscient de cette force et qu'on se fasse entendre. Parce que mine de rien, dans la société, il y a tout un tas d'autres forces politiques, en particulier l'extrême droite, les militaires et tout ça, et ben eux aussi ils sont en train de se préparer. Et la question c'est qui va se faire entendre, parce que y compris les petits patrons, tout ça, on les a beaucoup entendus dire leurs problèmes parce qu'ils ont eu des problèmes dans la crise sanitaire et tout ça. Et ben moi, ma préoccupation, c'est qu'il faut absolument que les salariés, les travailleurs, nous se fassent entendre encore plus fort, parce qu'on est encore plus légitime à parler, à exposer nos problèmes, et parce que c'est nous, les travailleurs, qui pouvons donner une autre direction à la société en dirigeant nous-mêmes cette économie à la place des capitalistes qui sont en train de nous emmener dans le mur.
Comment expliquez-vous qu'une partie de la classe ouvrière se tourne vers Le Pen ?
Moi, je pense qu'en tout cas, en ce moment, il y a énormément de travailleurs qui sont en colère. Il y en a tout un tas qui supportent plus cette société, qui supportent plus aussi les dirigeants politiques bourgeois, du PS jusqu'à Macron. Et je pense que voilà, comme disait Thomas tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'illusions, parce que c'est sûr que des nouveaux prophètes, des gens qui vont nous proposer mondes et merveilles, fonction un petit peu aussi des modes, que ce soit sur les thèmes de l'écologie, du travail, du machin, etc. Bon, on en a tous la casquette, en fait. Et il y a un moment donné où on se tourne vers des gens qui sont pourtant les ennemis des travailleurs, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la tribune des généraux, c'est quelque chose qui doit nous mettre quand même en alerte. La dette qu'a contractée l'État justement pour verser aux grandes entreprises, pour maintenir les profits, il parle déjà de nous la faire payer. Mais en fait, on l'a déjà payée, parce que ceux justement qui étaient présents, ceux qui étaient là, ceux qui ont répondu présents pendant l'épidémie, c'était les travailleurs. Les sacrifices, on les a déjà faits, y compris au prix de notre santé. Combien on croise de gens quand on va discuter sur les marchés, de gens qui se sont refaits refaire les canaux carpiens, qui ont mal au dos, qui sont complètement bousillés par le boulot, ça manque pas, quoi. Et là, il parle déjà de nous demander de faire encore des sacrifices, de devoir payer en fait cette dette. Sauf que cette dette n'est pas à nous de la payer. Ceux qui sont responsables de la situation, c'est justement le grand patronat et les politiciens qui défendent ce système. L'extrême droite, elle exprime aujourd'hui sa colère, quoi. Nous, on pense que c'est des ennemis des travailleurs. Que ce soit ces généraux, cette extrême droite, c'est ceux qui demain, quand il va y avoir une crise économique qui va encore se durcir, qui vont être les premiers à nous taper dessus et à nous faire, à nous faire manger la boue, quoi. C'est sûr que la démagogie sécuritaire, tout ce qu'on va entendre, là, ce qu'on entend déjà, c'est à qui mettra le plus de policiers. Nous, on répond insécurité de l'emploi. Là, il y a un flic qui est mort. Des morts sur des chantiers de BTP, des morts au boulot, il y en a pas forcément tous les jours, mais il y en a énormément, et ça, on n'en parle pas.
En fait, en général, ce que font beaucoup d'ouvriers, c'est pas qu'ils votent Front National ou Rassemblement National. Ce que font beaucoup d'ouvriers, c'est qu'ils votent plus. Et une des raisons, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les trahisons de la gauche et le fait que qu'ils le font encore, tous les partis réformistes, le parti socialiste, le parti communiste aussi, ça fait bien longtemps qu'ils sont en train de nous dire que ce qu'il faut faire pour changer les choses, c'est bien voter, que si on vote bien, ça ira mieux et tout ça. Et les travailleurs l'extérieur, ils ont bien vu que non, quand la gauche était au pouvoir, c'était pas mieux. Et ce que font Beaubrier, c'est qu'ils votent plus du tout. Après, moi, je pense que c'est pas une solution. Parce que justement, quand on dit plus ce qu'on pense, quand on s'exprime plus, eh ben, ça laisse la place à toutes les idées les plus réactionnaires. Et c'est ça qui permet au Rassemblement National de prendre de plus en plus le terrain et de prétendre qu'il s'exprime au nom de ceux qui sont en colère. Alors qu'en fait, ce qui nous prépare, c'est d'essayer de nous soumettre encore plus. C'est ça, hein, que fait l'extrême droite à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir. Et les militaires, c'est pareil. La situation, elle est quand même grave, là. Les militaires, ils sont bien conscients. Au bout d'un moment, les mensonges suffiront plus et que l'État, pour faire accepter encore plus de sacrifices aux travailleurs, eh ben, ils vont devoir utiliser la matraque. Et ce que font les généraux, là, c'est qu'ils se, dans leur tribune, là, ils disent, bah, nous, on est disponible pour le faire. Nous, on est prêts à ils parlent même il pourrait y avoir des milliers de morts. C'est ce qu'ils écrivent dans leur tribune. En fait, ils disent clairement dans la tribune qu'ils sont disponibles pour réprimer les travailleurs, quand ils disent mettre de l'ordre, ça veut dire laisser soumettre la population et laisser les patrons nous exploiter autant qu'ils veulent. Quand je dis que le problème, c'est que les travailleurs, ils s'expriment plus, bah, ce que je veux dire, c'est que là, il y a une course qui a démarré. Soit c'est les travailleurs qui reprennent du poil de la bête, qui s'expriment, qui s'organisent et qui disent qu'on n'est pas des esclaves, qu'on veut pas se laisser faire. Et ça, c'est le sens du vote lutte ouvrière. Voilà. Parce que le vote, ça change pas les sociétés, mais ça permet au moins de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on n'est pas des esclaves, qu'on se laissera pas faire et que nous, on veut renverser le pouvoir de ces capitalistes. Eh bien, soit c'est les travailleurs qui s'expriment, soit on laisse le terrain à toutes les idées les plus réactionnaires et du coup c'est les militaires ou Marine Le Pen qui en profitent. Et ça, voilà, c'est le risque qu'on a devant nous et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se fasse entendre.
Ce qui est très étonnant, c'est que de voir la liste du Rassemblement National dans notre région menée par quelqu'un qui était supposé être à gauche il y a quelques années.
Bah, y compris, moi je trouve que c'est moyennement étonnant aussi parce que le terrain nationaliste, souverainiste, sur lequel les partis dits de gauche se sont mis depuis des années, voire depuis le commencement, bah, en fait, c'est pas nouveau, quoi. Et on sent que c'est un truc foireux, en fait, pour les travailleurs. Parce que c'est nous faire passer l'idée qu'on a les mêmes intérêts que nos patrons, que bien français, que les actionnaires bien français. Bah, nous, la société, on la voit pas comme ça. Pour nous, il y a les capitalistes, il y a les riches, les actionnaires, cette clique qui profite de notre travail pour s'enrichir, et puis il y a ceux qui font tout tourner.
Oui, parce que en fait, comme tu dis, Delphine, et bah, ces idées nationalistes, la tête de liste du Rassemblement National, et bah, il les défendait déjà quand il était à la France Insoumise. Il le dit lui-même d'ailleurs. Il s'en vante dans les médias de pas tant avoir retourné sa veste que ça, de déjà défendre l'intérêt national quand il était à la France Insoumise. Et bah, en fait, oui, effectivement, il y a une logique. Et ça montre bien l'impasse, finalement, des idées nationalistes. Parce qu'à partir du moment où on lit notre sort, nous les travailleurs, si jamais on lit notre sort à celui des capitalistes, bah, c'est tout le temps eux qui en vont en profiter et c'est tout le temps nous qui devrons rester soumis. C'est ça veut dire ça, le nationalisme. Et donc, que ce soit un nationalisme défendu par Mélenchon ou un nationalisme défendu par Marine Le Pen, finalement, c'est le même piège. C'est nous faire croire qu'on est avant tout des Français, alors que non. On est avant tout des travailleurs et on a bien plus d'intérêts en commun avec un autre travailleur qui est suédois, algérien ou brésilien qu'avec un patron français. Et donc, défendre cette idée que les travailleurs n'ont pas de patrie, que notre seule patrie c'est d'être des exploités, eh ben, on est les seuls à le faire. Et c'est justement en ça que le vote lutte ouvrière, il a un sens complètement différent. Il a un sens de dire qu'on est fier d'appartenir à la classe sociale qui fait tout tourner et qui peut tout diriger. Ils sont tout le temps en train de nous faire croire, mais on est tous sur le même bateau, on est tous sur le même bateau. C'est aussi ce que nous dit le gouvernement. Quand ils nous disent qu'il va falloir se préparer à faire des sacrifices, ils nous disent on est tous sur le même bateau, la France et compagnie. Et bah, c'est pas vrai. Ou alors le bateau, bah, c'est comme le Titanic. Hein. Sur le Titanic, il y a les premières classes. Eux, ils ont le droit au... quand le navire coule, comme dans cette crise économique, les canots de sauvetage, ils seront pour les patrons, les premières classes. Et puis après, ceux qui se retrouvent dans l'eau, et bah, c'est les travailleurs, c'est les secondes classes du bateau. Et bah, là, c'est exactement la même chose. Nous dire qu'on est sur le même bateau, c'est pas vrai. On n'a pas les mêmes intérêts que les riches. Et donc, dire qu'on appartient à cette classe sociale et qu'on soit français ou pas, on est d'abord des exploités. C'est ça qu'il faut exprimer dans les élections pour faire reculer le nationalisme, pour faire reculer les idées réactionnaires qui nous emmènent dans le mur.
Comment vous situez-vous par rapport au nouveau parti anticapitaliste ?
Des choses en commun, c'est sûr. On a des choses en commun. Ils font partie des rares qui participent pas à ce concert nationaliste bleu, blanc, rouge. Le problème, c'est les immigrés. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on partage avec avec le NPA. Par contre, sur les perspectives de comment changer les choses, eh ben on propose pas les mêmes idées. Nous on est en train de parler de cette classe sociale qui est la seule à pouvoir renverser les choses, diriger la société, diriger l'économie nous-mêmes parce qu'on fait tout tourner. Voilà, parce qu'on est communiste. On est communiste révolutionnaire. Eh bien malheureusement, ça c'est quelque chose que les militants du NPA, ils ont renoncé à dire depuis bien longtemps. On les entend plus parler des idées communistes. Eh bien nous, on pense que dans une situation où le capitalisme, il est en crise, il est en train de nous emmener dans l'abîme, eh ben c'est plus important que jamais de défendre d'autres perspectives politiques, de dire que l'avenir, ça peut pas être le capitalisme et que l'avenir, c'est le communisme, que c'est les travailleurs au pouvoir. Donc ce discours de classe, eh ben malheureusement, c'est quelque chose que le NPA ne dit plus.
Dans votre journal, là, vous voyez, il y a la liste des réunions publiques et sur le Rhône, la région lyonnaise, je vois rien.
C'est ce qu'on disait, donc ce sera le 16 juin à 19h au Palais de la Mutualité.
On appelle les travailleurs de la région à venir assister à ce meeting pour justement...
Vous en bourgeoisez, là, moi.
Qui compte, c'est qui s'exprime.
Ouais, puis on a des grands projets hein, pour la classe ouvrière.
Voilà, exactement.
Ceci dit, le palais de la mutualité, c'était vraiment le palais populaire.
À propos de palais et de s'embourgeoiser, petite anecdote. Moi, je viens du sud de la France et j'ai souvent en tête un truc qu'avait écrit Victor Serge. Il parlait de ces belles villas sur la Côte d'Azur. Voilà, les villas les plus luxueuses, vues sur la mer et tout ça. Et il réfléchissait à l'avenir de la classe ouvrière. Et il regardait toutes ces belles maisons et il disait, ce qui est bien, c'est que quand les travailleurs auront fait la révolution, toutes ces belles villas, ces belles demeures, quand les grands bourgeois ils iront vivre dans des logements comme le classique, comme l'ensemble de la population, eh bien ces grandes villas elles seront disponibles pour que les travailleurs fatigués par la vie, les travailleurs usés par le travail, les gens malades puissent avoir les plus belles demeures possibles pour se reposer et se soigner. Voilà. Et ben moi je pense que quand Delphine dit on a des grands projets pour notre classe sociale, pour la classe ouvrière, bah oui, nous on pense que tout ce qu'il y a de meilleur en fait dans cette société, tout ce dont profite aujourd'hui uniquement la classe capitaliste, eh ben ça doit servir à l'intérêt général et que on est pour faire les réunions dans les plus belles salles possibles et que le luxe qui est aujourd'hui celui de la classe capitaliste, eh ben ça devienne un luxe pour le luxe de l'ensemble des travailleurs, l'ensemble de la population.
Mais vous personnellement, vous êtes pas un peu découragé parfois parce que ça fait des années qu'on entend parler. Vous êtes toujours sur le terrain, mais faut avoir les bras solides, hein, non? Comment?
Ça nous fait pas vraiment peur en fait. Y compris, enfin voilà, là vous parliez des palais, voilà, les perspectives dans l'histoire pour les travailleurs en fait, elles sont énormes. Là il y a eu les 150 ans de la Commune de Paris, non seulement on est prêt à pendre les palais, mais aussi les villes, quoi. Voilà, la Commune de Paris il y a 150 ans, c'était la première démonstration qu'en fait la société elle pouvait très bien vivre, très bien s'organiser sans qu'il y ait forcément des dirigeants autres que ceux décidés par les travailleurs. Qu'on était capable de construire des trucs hyper progressistes pour l'époque, de lutter contre l'illettrisme, de créer des écoles, des centres sanitaires, des choses comme ça. Nous, on pense que 150 ans après, l'humanité, justement, elle offre encore plus de choses. Là, vous voyez, on est capable de produire de l'oxygène sur la planète Mars, on est capable de trouver des vaccins en un an. On est capable de se démener et de faire tout un tas de choses qui sont géniales, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas nous qui décidons de comment on organise tout ça.
Je me demande, il faut donner un coup de fouet, mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, il n'y a pas de raison d'être découragé. Moi, je crois qu'il y a bien des raisons d'être fier de notre classe sociale. Et encore une fois, là, on est encore dans une pandémie, mais on a vu le courage de notre classe sociale, comment les gens, ils sont capables d'aller bosser quand même, de prendre des risques, de parfois tomber malade, de parfois contaminer leurs proches et tout ça. Ceux qui doivent avoir honte et qui devraient regarder leurs pieds, c'est ceux qui dirigent ce système complètement fou, c'est ceux qui dirigent cette économie, qui se gavent sur le dos de la population. Eux, je me demande comment ils font pour se regarder dans la glace. Nous, on peut être fiers de notre classe sociale et des ressources que les travailleurs, ils arrivent toujours à trouver dans toutes les situations pour résoudre les problèmes. Et toute l'histoire de notre classe sociale, c'est ça. C'est dans les moments, c'est aussi comme ça que commence la Commune de Paris. C'est dans des situations terriblement difficiles que commence la Révolution russe à chaque fois. Et les travailleurs, ils trouvent en eux des ressources. Toujours étonnantes pour résoudre les problèmes. Et quand il faut en arriver jusqu'à prendre le pouvoir et chasser les bourgeois pour résoudre les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés chaque jour, eh ben ils finissent par arriver à le faire. Je parlais tout à l'heure des travailleuses d'Ibis et tout ça. Voilà, elles montent la voix, elles montent le courage. Il suffit de regarder des femmes comme ça se battre pendant 2 ans pour obtenir de meilleures conditions de travail alors qu'on leur met une pression pas possible tous les jours, que leurs salaires ils sont dérisoires. dérisoire et tout ça, de les voir se battre et de voir leur combativité, leur solidarité entre elles, il suffit de les regarder une seconde pour avoir confiance dans l'avenir, parce que c'est ça notre classe sociale et c'est de ça qu'elle est capable.
Donc on dirait merci Delphine Bridet et Thomas Preux. Alors vous regarderez sur les listes, ils sont tous les deux sur la liste de la métropole, vous verrez à quelle place ils sont derrière Chantal Gomez.